L'évangile de l'expiation abondante. Jean, chapitre 13, versets 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds de Pierre la veille de la fête de la Pâque? En lui lavant les pieds, Jésus dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Simon-Pierre était le meilleur des disciples de Jésus. Il croyait que Jésus était le Fils de Dieu et témoignait que Jésus était le Christ. Et lorsque Jésus lui a lavé les pieds, il y avait certainement une raison de le faire. Lorsque Pierre a confessé qu'il croyait que Jésus était le Christ, cela signifiait qu'il croyait que Jésus était le Sauveur qui le sauverait de tous ses péchés. Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds des disciples avant d'être crucifié? Parce qu'il voulait que ses disciples comprennent le salut parfait. Pourquoi a-t-il lavé les pieds de Pierre? Jésus savait que Pierre le renierait bientôt trois fois et qu'il commettrait de nombreux péchés à l'avenir. Si, après que Jésus soit monté au ciel, Pierre avait eu un péché resté dans son cœur, il n'aurait pas pu être uni à Jésus. Mais Jésus connaissait toutes les faiblesses de ses disciples, et il ne voulait pas que leur péché s'interpose entre lui et ses disciples. Il fallait donc qu'il leur enseigne que toutes leurs iniquités avaient déjà été effacées. C'est la raison pour laquelle il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus, avant de mourir et de les quitter, s'est assuré qu'ils comprenaient clairement l'évangile de son baptême, et aussi que tous leurs péchés de toute une vie avaient été complètement effacés. Jean, chapitre 13, parle du salut parfait que Jésus a accompli pour ses disciples. En leur lavant les pieds, Jésus leur a parlé de la sagesse de l'évangile de son baptême par lequel tous les hommes pouvaient être lavés de toutes leurs fautes. Ne vous laissez pas tromper par le diable dans le futur. J'ai enlevé tous vos péchés par mon baptême dans le Jourdain, et je prendrai le jugement pour eux sur la croix. Ensuite, je ressusciterai d'entre les morts et accomplirai le salut de la nouvelle naissance pour vous tous. Pour vous enseigner que j'ai déjà lavé vos péchés futurs, pour vous enseigner l'évangile originel de l'effacement des péchés, je vous lave les pieds avant d'être crucifié. C'est le secret de l'évangile de la renaissance spirituelle. Vous devriez tous croire ainsi. Nous devrions tous comprendre la raison pour laquelle Jésus a lavé les pieds des disciples et savoir pourquoi il a dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Ce n'est qu'alors que nous pourrons croire en l'évangile de la nouvelle naissance et que nous-mêmes pourrons vraiment naître de nouveau. Il a dit dans Jean, chapitre 13. Qu'est-ce que la transgression? Ce sont les péchés que nous commettons chaque jour parce que nous sommes faibles. Avant de mourir sur la croix, Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples et les a convaincus de l'évangile de la rémission de leurs péchés en leur lavant les pieds de ses propres mains. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jean, chapitre 13, versets 3 à 7, il a enseigné à ses disciples l'évangile du baptême et l'expiation des péchés par l'eau de son baptême. À l'époque, étant fidèle à Jésus, Pierre n'était pas capable de comprendre la raison pour laquelle Jésus lui avait lavé les pieds. Après que Jésus lui ait parlé, la manière dont il croyait en Jésus avait changé. Jésus voulait lui enseigner l'évangile de l'élimination des péchés, à savoir l'évangile de l'eau de son baptême. Il craignait que Pierre ne puisse pas venir à lui à cause de tous ses futurs péchés, en particulier les péchés de sa chair dans le futur. Jésus leur a lavé les pieds pour que le diable ne puisse pas leur enlever la foi. Plus tard, Pierre a compris pourquoi. Jésus a préparé le chemin pour que quiconque croit en l'eau de son baptême et en son sang soit racheté de ses péchés pour toujours. Dans Jean, chapitre 13, les paroles qu'il a prononcées en lavant les pieds de ses disciples sont rapportées. Ce sont des paroles très importantes que seuls les nés de nouveau peuvent vraiment comprendre. La raison pour laquelle Jésus a lavé les pieds de ses disciples avant la fête de la Pâque était de les aider à réaliser qu'il avait déjà lavé tous leurs péchés de toute une vie. Jésus dit « Pourquoi je vous lave les pieds, vous ne le comprenez pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Ces paroles à Pierre contenaient la vérité de la nouvelle naissance. Nous devrions tous connaître et croire au baptême de Jésus, qui a lavé toutes nos iniquités. Le baptême de Jésus au Jourdain était l'évangile du passage de tous les péchés par l'imposition des mains. Nous devrions tous croire aux paroles de Jésus. Il a ôté tous les péchés du monde par son baptême, et en étant crucifié, il a subi le jugement et accompli le salut complet du péché. Jésus a été baptisé pour débarrasser tous les hommes de tous leurs péchés. L'effacement de tous nos péchés de toute une vie a été accompli par le baptême et le sang de Jésus. Quel est le « piège » du diable contre les justes? Le diable essaie de tromper les justes afin de les rendre à nouveau pécheurs. Jésus savait bien qu'après avoir été crucifié, ressuscité et monté au ciel, le diable et les pourvoyeurs de la fausse foi viendraient et essaieraient de tromper les disciples. Nous pouvons voir par le témoignage de Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », qu'il croyait en Jésus. Mais Jésus voulait encore une fois rappeler à Pierre de garder à l'esprit l'évangile de l'effacement des péchés. Cet évangile était le baptême de Jésus, par lequel il a enlevé tous les péchés du monde. Il voulait l'enseigner une fois de plus à Pierre et aux disciples, et à nous, ceux qui viendraient plus tard. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Chaque fois que les disciples de Jésus péchaient, le diable les tentait et les condamnait en disant « Regardez, si vous continuez à commettre des péchés, comment pouvez-vous dire que vous êtes sans péché? Vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes qu'un pécheur. » Pour éviter cela, Jésus leur a dit que leur foi dans le baptême de Jésus avait déjà lavé tous les péchés de leur vie, passé, présent et futur. Vous savez tous que j'ai été baptisé. La raison pour laquelle j'ai été baptisé au Jourdain était pour laver tous vos péchés de toute une vie, ainsi que le péché originel de l'humanité. Pouvez-vous comprendre maintenant pourquoi j'ai été baptisé, pourquoi je dois être crucifié et mourir sur la croix? Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer qu'il avait enlevé tous leurs péchés quotidiens par son baptême et qu'il prendrait le jugement pour eux sur la croix. Maintenant, vous et moi avons été sauvés de tous nos péchés par notre foi en l'évangile du baptême et du sang de Jésus, qui est l'effacement de tous nos péchés. Jésus a été baptisé et crucifié pour nous. Il a lavé tous nos péchés par son baptême et son sang. Quiconque connaît et croit en l'évangile de l'expiation des péchés, quiconque croit en la vérité, est racheté de tous ses péchés. Alors, que doit-on faire après avoir été sauvé? Il faut admettre ses péchés chaque jour et croire au salut du baptême et du sang de Jésus, l'évangile de l'expiation pour tous les péchés. Il faut prendre dans son cœur l'évangile selon lequel Jésus a enlevé tous les péchés par son baptême et son sang. Si vous péchez à nouveau, redeviendrez-vous un jour pécheur? Non. Sachant que Jésus a enlevé tous nos péchés, comment pourrions-nous redevenir pécheurs? Le baptême de Jésus et son sang sur la croix étaient l'évangile de l'expiation pour tous nos péchés. Quiconque croit en cet évangile originel, à savoir la suppression des péchés, naît de nouveau en tant que personne juste. Les justes ne peuvent jamais redevenir pécheurs. Pourquoi les justes ne peuvent-ils plus jamais devenir pécheurs? Parce que Jésus a déjà expié tous leurs péchés de toute une vie. Si vous croyez en l'évangile de l'effacement des péchés, qui est l'eau et l'esprit, mais que vous vous sentez toujours pécheur à cause de vos fautes quotidiennes, alors vous devez aller au Jourdain où Jésus a été baptisé pour enlever tous vos péchés. Si vous redevenez pécheur après avoir reçu l'effacement des péchés, Jésus devra-t-il être baptisé à nouveau? Vous devez croire en l'effacement de vos péchés dans l'évangile du baptême de Jésus. Vous devez garder à l'esprit que Jésus a enlevé tous vos péchés une fois pour toutes par son baptême. Vous devez avoir une foi inébranlable en Jésus-Christ comme votre Sauveur. Croire en Jésus comme votre Sauveur signifie que vous croyez au baptême de Jésus, qui a enlevé tous vos péchés de toute une vie. Si vous croyez vraiment au baptême, à la croix, à la mort et à la résurrection de Jésus, vous ne pourrez plus jamais devenir pécheur, quel que soit le genre de péché que vous avez commis. Vous avez été racheté de tous les péchés de toute votre vie par votre foi. Jésus-Christ a aussi lavé les péchés du futur, même les péchés que nous commettons à cause de nos propres faiblesses. Et parce que Jésus devait souligner l'importance de son baptême, il a lavé les pieds de ses disciples avec de l'eau pour symboliser l'évangile de l'effacement des péchés, son baptême. Jésus-Christ a été baptisé, crucifié, ressuscité et monté au ciel pour accomplir la promesse de Dieu d'une expiation abondante pour tous les péchés du monde et pour sauver toute l'humanité. En conséquence, ses disciples ont pu prêcher l'évangile de l'élimination des péchés, c'est-à-dire le baptême de Jésus, la croix et la résurrection, tout au long de leur vie. La faiblesse de la chair de Pierre. Pourquoi Pierre a-t-il renié Jésus? Parce qu'il était faible. La Bible nous dit que lorsque Pierre fut confronté par les serviteurs de Caïphe le grand prêtre et accusé d'être l'un des disciples de Jésus, il le nia deux fois, en disant « Je ne connais pas cet homme ». Puis il a maudit et juré pour la troisième fois. Lisons le passage ici. Matthieu, chapitre 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ». Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire ». Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth ». Il le nia de nouveau, avec serment « Je ne connais pas cet homme ». Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître ». Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme ». Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois ». Et étant sorti, il pleura amèrement. Matthieu, chapitre 26, versets 69 à 75. Pierre croyait vraiment en Jésus et le suivait fidèlement. Il croyait que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais quand Jésus fut amené à la cour de Caïphe, quand il devint dangereux d'être associé à Jésus, il le renia et le maudit. Pierre ne savait pas qu'il renierait Jésus. Mais Jésus savait qu'il le ferait. Jésus connaissait parfaitement la faiblesse de Pierre. C'est pourquoi Jésus a lavé les pieds de Pierre et lui a enseigné l'évangile du salut, comme il est écrit dans Jean, chapitre 13, « Tu pécheras à l'avenir, mais j'ai déjà lavé tous tes péchés futurs ». Pierre a effectivement renié Jésus lorsque sa vie était en danger, mais c'est la faiblesse de sa chair qui l'a poussé à le faire. Par conséquent, pour enseigner à ses disciples qu'il les a sauvés de toutes leurs iniquités futures, Jésus leur a lavé les pieds à l'avance. « Je vous ai déjà sauvés de tous vos péchés futurs, aussi. Je dois être crucifié parce que j'ai été baptisé et que j'ai pris tous vos péchés, et je les paierai tous pour devenir le vrai Sauveur pour vous tous. Je suis votre Dieu, votre Sauveur. Je paierai entièrement pour tous vos péchés, et je deviendrai votre berger par mon baptême et mon sang. Je suis le berger de votre salut. » Pour implanter fermement cette vérité dans leur cœur, Jésus leur a lavé les pieds avant la fête de la Pâque. C'est la vérité de l'Évangile. Parce que notre chair est faible même après être née de nouveau, nous pécherons à nouveau. Bien sûr, nous ne devrions pas pécher, mais tout comme Pierre a fait face à de graves problèmes à cause d'un péché involontaire, nous aussi pouvons pécher sans vraiment le vouloir. Parce que nous vivons dans la chair, nous sommes conduits à la destruction par nos péchés. La chair péchera aussi longtemps que nous vivrons dans ce monde séculier, mais Jésus a éliminé tous ses péchés par son baptême et son sang sur la croix. Nous ne nions pas que Jésus est notre Sauveur, mais lorsque nous vivons dans la chair, nous continuons à commettre des péchés contre la volonté de Dieu. C'est parce que nous sommes nés de la chair. Mais Jésus savait bien que nous sommes pécheurs dans la chair. Jésus est devenu notre Sauveur en payant tous nos péchés par son baptême et son sang. Il nous a libérés de tous les péchés en croyant en son salut et en sa résurrection. Les quatre évangiles commencent tous par le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Le but de sa vie humaine était d'accomplir l'évangile de la nouvelle naissance, l'évangile du salut. Combien de temps péchons-nous dans la chair? Nous péchons toute notre vie jusqu'au jour de notre mort. Quand Pierre l'a renié non pas une, ni deux, mais trois fois avant que le coq ne chante, à quel point cela a-t-il dû lui briser le cœur? Quelle honte a-t-il dû ressentir? Il a juré devant Jésus qu'il ne le trahirait jamais. Il a péché à cause de la faiblesse de sa chair, mais quelle misère a-t-il dû ressentir lorsqu'il a succombé à sa faiblesse et a renié Jésus non seulement une, mais trois fois? Quelle honte a-t-il dû ressentir lorsqu'il a regardé Jésus une fois de plus? Mais Jésus savait toutes ces choses et plus encore. C'est pourquoi il a dit « Je sais que vous pécherez encore. Mais j'ai déjà enlevé tous ces péchés par mon baptême, afin que vos péchés ne vous fassent pas trébucher et ne vous rendent pas pécheurs, et qu'il ne vous soit pas impossible de revenir à moi. Je suis devenu pour vous le Sauveur complet en étant baptisé et jugé pour tous les péchés. Je suis devenu votre Dieu, votre berger. Croyez en l'Évangile qui a effacé vos péchés. Je continuerai à t'aimer même si tu commets les péchés de la chair. J'ai déjà lavé toutes tes iniquités. L'Évangile de l'effacement de tous vos péchés est éternel. Mon amour pour toi est aussi pour toujours. » Jésus dit à Pierre et à ses disciples, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » La raison pour laquelle il a parlé de cet évangile dans Jean, chapitre 13, était qu'il était important que les gens naissent de nouveau d'eau et d'esprit. Croyez-vous en cela? Dans les versets 9 à 10, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Chers amis, commettrez-vous des péchés de chair à l'avenir ou non? Vous en commettrez certainement. Mais Jésus a dit qu'il avait déjà lavé les péchés futurs, toutes les iniquités de notre chair par son baptême et son sang, et il a dit clairement à ses disciples la parole de vérité, l'évangile de l'expiation, avant d'être crucifié. Parce que nous vivons dans notre chair avec toutes nos faiblesses, nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher. Jésus a lavé tous les péchés du monde par son baptême. Il a non seulement lavé notre tête et notre corps, mais il a aussi lavé nos pieds, tous nos péchés futurs. C'est l'évangile de la nouvelle naissance, du baptême de Jésus. Après le baptême de Jésus, Jean-Baptiste a témoigné, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean, chapitre 1, verset 29. Nous devons croire que tous les péchés du monde ont été effacés en étant transférés sur Jésus lors de son baptême. Lorsque nous vivons dans ce monde, les hommes ne peuvent s'empêcher de pécher. Nous devons accepter cela comme un fait ultime. Chaque fois que notre faiblesse de la chair fait surface, nous devons nous rappeler que Jésus a effacé tous nos péchés et tous les péchés du monde par l'évangile du baptême et a payé pour eux avec son sang. Nous devons lui rendre grâce du fond du cœur. Confessons avec foi que Jésus est notre Sauveur et notre Dieu. Louons le Seigneur. Tout le monde dans ce monde pèche avec la chair. Les gens meurent des péchés de la chair qu'ils ont commis tout au long de leur vie. Les gens pèchent continuellement avec leur chair. Les mauvaises pensées dans le cœur des gens. Qu'est-ce qui souille une personne? Différents types de péchés et de mauvaises pensées. Jésus dit dans Matthieu, chapitre 15, versets 19 à 20, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est parce que diverses sortes de péchés dans le cœur d'une personne le souillent qu'elle est impure. Il faut reconnaître sa propre nature mauvaise. Qu'y a-t-il dans le cœur de chaque homme? Les 12 sortes de péchés. Marc, chapitre 7, versets 21 à 23. Nous devons être capables de dire « Ces 12 types de péchés se trouvent dans le cœur des gens. Je les ai tous dans mon cœur. J'ai en moi les 12 sortes de péchés dont il est question dans la Bible. » Avant de renaître de l'eau et de l'esprit, nous devons admettre les péchés qui se trouvent dans notre cœur. Nous devons reconnaître que nous sommes de véritables pécheurs devant Dieu. Mais nous ne le faisons pas souvent. La plupart d'entre nous trouvons des excuses pour nos péchés, en disant « Je n'avais jamais eu ces pensées dans mon cœur auparavant, je me suis juste égaré momentanément. » Mais qu'a dit Jésus à propos des êtres humains? Il a clairement déclaré que ce qui sort du cœur d'une personne les souille. Il nous a dit que les gens ont de mauvaises pensées en eux. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous bon ou mauvais? Sais-tu que tout le monde a de mauvaises pensées? Oui, les pensées de chacun sont mauvaises. Il y a longtemps, le bâtiment du grand magasin Sampoong à Séoul s'est soudainement effondré. Les familles qui ont perdu leurs proches étaient dans une profonde agonie. Mais de nombreuses personnes se sont rendues sur place pour profiter de ce spectacle tragique. Certains ont pensé, combien de morts? 200? Non, c'est trop peu. 300? Peut-être? Eh bien, cela aurait été beaucoup plus intéressant et spectaculaire si le nombre de morts avait été d'au moins 1000. Le cœur des gens peut être aussi mauvais que ça. Nous devons l'accepter. Quel manque de respect pour les morts! Quelle dévastation pour les familles! Certains ont été ruinés financièrement. Il est clair que certains spectateurs n'étaient pas très compatissants. Cela aurait été beaucoup plus intéressant si plus de morts étaient morts. Ce sera spectaculaire. Et si la même chose se produisait dans un stade rempli de gens? Des milliers de personnes seraient ensevelies sous les décombres, n'est-ce pas? Oh oui! Ce serait certainement beaucoup plus intéressant que ça. Certains ont peut-être eu des pensées de ce genre. Et nous savons tous à quel point les gens peuvent être méchants parfois. Bien sûr, ils ne diraient jamais de telles pensées à voix haute. Ils peuvent faire claquer leur langue et exprimer leur sympathie, mais secrètement, dans leur cœur, ils souhaitent que ce soit plus spectaculaire. Ils veulent voir des tragédies terribles où des milliers de personnes sont tuées, tant que cela ne va pas à l'encontre de leurs intérêts. C'est ainsi que fonctionne le cœur des gens. La plupart d'entre nous sont comme ça avant de naître de nouveau. Le meurtre dans le cœur de chaque personne. Pourquoi péchons-nous? Parce que nous avons des pensées mauvaises dans notre cœur. Dieu nous a dit que le meurtre est dans le cœur de chaque personne. Mais beaucoup le nieraient. Comment peux-tu dire cela? Je n'ai aucune pensée de meurtre dans mon cœur. Comment peux-tu même penser une telle chose? Ils n'admettraient jamais qu'ils ont le meurtre dans leur cœur. Ils pensent que les meurtriers sont d'une autre race. Ce tueur en série dans les nouvelles autres jours, les foules qui ont assassiné et brûlé des gens dans leur sous-sol, ce sont eux qui ont le meurtre dans leur cœur. Ils sont d'une autre race. Je ne pourrai jamais être comme eux. Ce sont des voyous. Des meurtriers. Ils s'indignent et crient « Ceux qui sont nés de mauvaises graines devraient être effacés de la surface de cette terre. » Ils devraient tous être condamnés à mort. Mais malheureusement, la pensée du meurtre est dans le cœur de ces personnes indignées ainsi que dans le cœur des tueurs en série et des meurtriers. Dieu nous dit que dans le cœur de tous les êtres humains, il y a le meurtre. Nous devons accepter la parole de Dieu, qui voit clair en nous. Nous devons admettre « Je suis un pécheur avec le meurtre dans mon cœur ». Oui, Dieu nous a dit que les pensées mauvaises, y compris le meurtre, sont présentes dans le cœur de tous les êtres humains. Acceptons la parole de Dieu. Au fur et à mesure que les générations deviennent de plus en plus mauvaises, toutes sortes d'équipements de protection personnelle deviennent des outils pour le meurtre. C'est le résultat du meurtre dans nos cœurs. Vous pouvez commettre un meurtre dans un accès de colère ou de peur. Je ne dis pas que chacun d'entre nous tuerait réellement les autres, mais que nous avons cette pensée dans notre cœur. Parce que les gens naissent avec de mauvaises pensées, nous les avons tous dans notre cœur. Certains finissent effectivement par tuer, non pas parce qu'ils sont des meurtriers, mais parce que nous sommes tous capables de devenir des meurtriers. Dieu nous dit que nous avons de mauvaises pensées et le meurtre dans nos cœurs. C'est la vérité. Aucun d'entre nous ne fait exception à cette vérité. Par conséquent, le bon chemin à suivre est d'accepter la parole de Dieu et d'obéir. Nous péchons dans ce monde parce que nous avons de mauvaises pensées dans nos cœurs. L'adultère dans nos cœurs. Dieu dit que l'adultère est présent dans le cœur de chaque personne. Êtes-vous d'accord? Admettez-vous que l'adultère est présent dans votre cœur? Oui, l'adultère est présent dans le cœur de chaque personne. C'est pourquoi la prostitution et d'autres délits sexuels prospèrent dans notre société. C'est l'un des moyens les plus sûrs de gagner de l'argent à toutes les époques de l'histoire. D'autres entreprises peuvent souffrir de la dépression économique, mais ces villes entreprises ne souffrent pas autant parce que l'adultère habite dans le cœur de tous les hommes. Le fruit des pécheurs est le péché. À quoi l'être humain est-il comparé? L'arbre qui porte le fruit du péché. Tout comme les pommiers portent des pommes, les poiriers des poires, les dattiers des dattes et les plaqueminiers des kakis, nous qui sommes nés avec les 12 sortes de péchés dans nos cœurs, portons le fruit du péché. Jésus dit que ce qui sort du cœur d'une personne la souille. Êtes-vous d'accord? Nous ne pouvons qu'accepter les paroles de Jésus et dire « Oui, nous sommes une race de pécheurs, de malfaiteurs. Oui, tu as raison, Seigneur. Oui, nous devons admettre notre méchanceté. Nous devons nous avouer la vérité devant Dieu. Tout comme Jésus-Christ a obéi à la volonté de Dieu, nous devons accepter la parole de Dieu et lui obéir. C'est la seule façon pour nous d'être sauvés de tous nos péchés par l'eau et l'esprit. Ce sont les dons de Dieu. Mon pays est béni par 4 belles saisons. Et au fil des saisons, diverses sortes d'arbres portent leurs fruits. De la même manière, les 12 péchés qui sont dans notre cœur nous tiennent en haleine et nous conduisent constamment au péché. Aujourd'hui, c'est peut-être le meurtre qui tient en haleine notre cœur, demain ce sera peut-être l'adultère. Puis le lendemain, les mauvaises pensées, puis la fornication, le vol, le faux témoignage, etc. Et nous continuons à pécher toute l'année, chaque mois, chaque jour, chaque heure. Il ne se passe pas un jour sans que nous commettions un péché. Nous continuons à faire le vœu de nous tenir loin du péché, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher parce que nous sommes nés ainsi. Avez-vous déjà vu un pommier refuser de porter des pommes parce qu'il ne le voulait pas? Je ne veux pas porter de pommes. Même s'il décidait de refuser de porter des fruits, comment pourrait-il ne pas porter de pommes? Les fleurs fleuriraient de toute façon au printemps, les pommes pousseraient et mûriraient en été, et les fruits seraient prêts à être cueillis et mangés à l'automne. C'est la dispensation de la nature, et la vie des pécheurs doit également suivre la dispensation de la nature. Les pécheurs ne peuvent s'empêcher de porter les fruits du péché. Le baptême et la croix de Jésus devaient expier nos péchés. Que signifie l'expiation? C'est le paiement du salaire du péché par le baptême de Jésus, l'imposition des mains et son sang sur la croix. Lisons un passage de la Bible pour découvrir comment les pécheurs, la race des malfaiteurs, peuvent expier leurs péchés devant Dieu et vivre leur vie dans le bonheur. C'est l'évangile de l'expiation des péchés. Dans Lévitique, chapitre 4, il est dit « Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné, élimination des péchés. Lévitique, chapitre 4, versets 27 à 31. À l'époque de l'Ancien Testament, comment le peuple expiait-il ses péchés? Ils posaient leurs mains sur la tête de l'offrande pour le péché et transféraient leurs péchés sur elle. Il est écrit dans le Lévitique. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Lévitique, chapitre 1, versets 2 à 4. Dieu leur a fait préparer des offrandes pour le péché, qui seraient utilisées pour expier les péchés d'Israël. Et il leur a dit de poser leurs mains sur la tête de l'offrande pour le péché, pour transférer les péchés. À l'intérieur de la cour du Saint-Tabernacle, il y avait l'autel de l'Holocauste. C'était une caisse un peu plus grande que la table de la chair, et elle avait des cornes aux quatre coins. Le peuple d'Israël expiait ses péchés en transférant ses péchés sur la tête de la victime expiatoire et en brûlant sa chair sur l'autel des holocaustes. Dans le livre du Lévitique, Dieu dit aux gens de « l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur ». Les pécheurs transmettaient leurs péchés au sacrifice pour le péché en posant leurs mains sur sa tête, puis ils égorgeaient le sacrifice pour le tuer. Les sacrificateurs mettaient son sang sur les cornes de l'autel des holocaustes. Après cela, le corps de l'offrande était nettoyé de ses organes internes, et sa chair était coupée en morceaux et réduite en cendres sur l'autel des holocaustes. L'arôme de la viande était ensuite offert à Dieu en guise d'expiation. C'est ainsi qu'ils expiaient leurs péchés quotidiens. Ensuite, il y avait le sacrifice d'expiation pour les péchés annuels. Il différait du sacrifice d'expiation pour les péchés quotidiens, en ce que le souverain sacrificateur imposait ses mains sur le sacrifice pour le péché au nom de tout le peuple d'Israël, et qu'il aspergeait cette fois le sang à l'est du propitiatoire. De plus, l'imposition des mains sur la tête du bouc vivant était faite devant le peuple d'Israël le dixième jour du septième mois chaque année. Lévitique, chapitre 16, versets 5 à 27. Qui symbolise le sacrifice pour le péché dans l'Ancien Testament? Jésus-Christ. Maintenant, découvrons comment le système sacrificiel a changé dans le Nouveau Testament et comment la loi éternelle de Dieu est restée constante au fil des ans. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur la croix? Qu'a-t-il fait de mal sur cette terre pour que Dieu laisse son Fils mourir sur la croix? Qui l'a forcé à mourir sur la croix? Lorsque tous les pécheurs du monde, c'est-à-dire nous tous, étaient tombés dans le péché, Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Il a été baptisé par Jean le Baptiste au Jourdain et a pris le châtiment sur la croix pour tous les péchés au nom de toute l'humanité. La manière dont Jésus a été baptisé, la manière dont il a saigné sur la croix était exactement comme le sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament, l'imposition des mains sur le sacrifice pour le péché et l'effusion de son sang. C'était ainsi que cela se faisait dans l'Ancien Testament. Un pécheur posait les mains sur le sacrifice pour le péché et confessait ses péchés en disant « Seigneur, j'ai péché. J'ai commis un meurtre et un adultère. » Ses péchés étaient alors transmis au sacrifice pour le péché. Et tout comme le pécheur égorgeait le sacrifice pour le péché et l'offrait devant Dieu, Jésus a été offert de la même manière pour expier tous nos péchés. Jésus a été baptisé et a versé son sang sur la croix pour nous sauver et expier tous nos péchés par son sacrifice. En fait, Jésus est mort à cause de nous. Quand on y pense, que signifiait offrir ces animaux sans défaut en sacrifice pour tous les péchés du peuple? Tous ces animaux savaient-ils ce qu'était le péché? Les animaux ne connaissent pas le péché. Ils ne pouvaient pas enlever les péchés de tous les êtres humains. Tout comme ces animaux étaient complètement sans défaut, Jésus était également sans péché. Il est Dieu saint, le Fils de Dieu, et il n'a jamais péché. Ainsi, il a enlevé tous nos péchés par son baptême dans le Jourdain quand il avait 30 ans. C'était pour enlever tous nos péchés, et il est mort sur la croix à cause des péchés qu'il nous a enlevés. C'est son ministère pour le salut qui a lavé tous les péchés de l'humanité. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 3. Le début de l'évangile de l'expiation des péchés. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain? Pour accomplir toute justice. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 3, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 15. Nous devons savoir et comprendre pourquoi Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Il a été baptisé pour expier les péchés de tous les hommes et pour accomplir toute la justice de Dieu. Pour sauver tous les hommes de leurs péchés, Jésus-Christ, l'unique sans défaut, a été baptisé lui-même par Jean-Baptiste. Ainsi, il a enlevé les péchés du monde et s'est offert lui-même pour expier les péchés de tous les êtres humains. Pour être sauvés du péché, nous devons tous connaître la vérité et croire en elle. C'est à nous de croire en son salut et d'être sauvés. Que signifie le baptême de Jésus? C'est la même chose que l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les péchés de tous les hommes étaient transférés sur la tête de l'offrande pour le péché par l'imposition des mains. De même, dans le Nouveau Testament, Jésus a enlevé tous les péchés du monde en se présentant comme l'offrande pour le péché et en étant baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le plus grand homme parmi tous les humains, le représentant de l'humanité ordonnée par Dieu. En tant que représentant de l'humanité, le grand prêtre de tous, il a posé les mains sur Jésus et a transféré tous les péchés du monde sur lui. Le baptême signifie « transmettre », « être enseveli » et « être lavé ». Savez-vous pourquoi Jésus est venu dans ce monde et a été baptisé par Jean-Baptiste? Croyez-vous en Jésus, tout en connaissant la signification de son baptême? Le baptême de Jésus devait enlever tous nos péchés, les péchés que nous, la race des malfaiteurs, commettons avec notre chair tout au long de notre vie. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour l'accomplissement de l'évangile originel de l'expiation de tous nos péchés. Dans Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17, il est écrit « Alors, et cela signifie le moment où Jésus a été baptisé, le moment où tous les péchés du monde ont été transférés sur lui. Alors, Jésus a enlevé tous les péchés de l'humanité, est mort sur la croix après 3 ans, et est ressuscité après 3 jours. Pour laver tous les péchés du monde, il a été baptisé une fois pour toutes, est mort sur la croix une fois pour toutes, et est ressuscité des morts une fois pour toutes. Pour tous ceux qui désirent être sauvés de leurs péchés devant Dieu, il les a tous sauvés une fois pour toutes. Pourquoi Jésus a-t-il dû être baptisé? Pourquoi a-t-il dû mettre une couronne d'épines et être jugé au tribunal de Pilate comme un criminel ordinaire? Pourquoi a-t-il dû être crucifié sur la croix et saigné à mort? La raison de tout ce qui précède est qu'il a enlevé tous les péchés du monde, les péchés de vous et de moi, sur lui-même par son baptême. Et pour nos péchés, il a dû mourir sur la croix. Nous devons croire en la parole du salut selon laquelle Dieu nous a sauvés et lui être reconnaissants. Sans le baptême de Jésus, sa croix et sa résurrection, il n'y aurait pas de salut pour nous. Lorsque Jésus fut baptisé par Jean pour enlever tous les péchés du monde, il enleva tous nos péchés et nous sauva ainsi, nous qui croyons en son évangile du salut. Certaines personnes pensent, mais il n'a enlevé que le péché originel, n'est-ce pas? Mais ils se trompent. Il est clairement écrit dans la Bible que Jésus a enlevé tous les péchés du monde une fois pour toutes lorsqu'il a été baptisé. Tous nos péchés, y compris le péché originel, ont été effacés. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 3, verset 15, « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Accomplir toute justice signifie que tous les péchés, sans exception, ont été effacés de nous. Jésus a-t-il également effacé nos péchés de toute une vie? Oui, il l'a fait. Trouvons-en la preuve dans le Lévitique d'abord. Il nous parle du grand prêtre et du sacrifice du jour des expiations. Le sacrifice d'expiation pour les péchés annuels de tous les Israélites. Les Israélites pouvaient-ils toujours rester saints grâce au sacrifice pour le péché de cette terre? Jamais. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs, et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Lévitique, chapitre 16, versets 6 à 10. Ici, Aaron prit 2 boucs à l'entrée de la tente d'assignation pour expier les péchés annuels des Israélites. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le bouc émissaire était nécessaire pour l'expiation. En revanche, le sacrifice d'expiation pour les péchés quotidiens, dans lequel le pécheur posait ses mains sur la tête de l'offrande pour transmettre ses péchés. Mais pour les péchés annuels des Israélites, le souverain sacrificateur, au nom de tout le peuple, transmettait les péchés annuels au sacrifice pour le péché le 10e jour du 7e mois de chaque année. Dans Lévitique, chapitre 16, versets 29 à 31, il est écrit « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Lévitique, chapitre 16, versets 29 à 31. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël apportait un sacrifice d'expiation pour les péchés quotidiens et transférait leurs péchés sur sa tête, en confessant « Seigneur, j'ai commis tel et tel péché ». Puis il coupait la gorge du sacrifice d'expiation, donnait le sang au sacrificateur et rentrait chez lui, convaincu qu'il était désormais libre de ses péchés. Le sacrifice d'expiation mourait pour le pécheur, avec le péché sur sa tête. Le sacrifice pour le péché était immolé à la place du pécheur. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice pour le péché pouvait être un bouc, un veau, un taureau, tous les animaux sans défaut et purs que Dieu avait distingués. Au lieu de faire mourir un pécheur pour ses péchés, Dieu, dans son infinie miséricorde, a permis que la vie d'un animal soit offerte à la place. De cette façon, dans l'Ancien Testament, les pécheurs pouvaient expier leurs péchés par le sacrifice d'expiation. Les offenses du pécheur étaient transférées au sacrifice d'expiation par l'imposition des mains, et son sang était donné au prêtre pour expier les péchés du pécheur. Cependant, il était impossible d'expier les péchés tous les jours. C'est pourquoi Dieu a permis au grand prêtre d'expier les péchés d'une année entière, chaque année le 10e jour du 7e mois, au nom de tout le peuple d'Israël. Quel était alors le rôle du grand prêtre le jour des expiations? Premièrement, le grand prêtre Aaron posa ses mains sur le sacrifice d'expiation, confessant les péchés du peuple. « Seigneur, les enfants d'Israël ont commis tel et tel péché, meurtre, adultère, fornication, vol, faux témoignage, blasphème. » Puis il égorgeait le sacrifice pour le péché et prenait le sang qui était aspergé sept fois sur le propitiatoire à l'intérieur du saint tabernacle d'assignation. Dans la Bible, le nombre s'était considéré comme le nombre parfait. C'était sa tâche de transférer les péchés annuels du peuple sur la tête de l'offrande pour le péché au nom de tous les Israélites, et l'offrande pour le péché était sacrifiée à leur place. Parce que Dieu est juste, pour sauver tous les peuples de leurs péchés, il a permis que le sacrifice pour le péché meure à la place du peuple. Parce que Dieu est vraiment miséricordieux, il a permis au peuple d'offrir la vie d'un sacrifice à la place de la leur. Le grand prêtre aspergeait ensuite le sang sur le côté et du propitiatoire, et expia ainsi tous les péchés des Israélites pour l'année écoulée, le jour de l'expiation, le 10e jour du 7e mois. Qui est l'agneau sacrificiel selon l'Ancien Testament? Jésus qui est sans défaut. Le jour des expiations, le grand prêtre devait offrir deux boucs pour le peuple d'Israël. L'un d'eux était appelé le bouc émissaire, ce qui signifie « mettre dehors ». De la même manière, le bouc émissaire du Nouveau Testament est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu nous a donné son Fils unique comme agneau sacrificiel. Et en tant qu'agneau sacrificiel pour toute l'humanité, il a été baptisé par Jean-Baptiste et est devenu le Sauveur, le Messie du monde. Messie signifie « le Sauveur » et Jésus-Christ signifie « le Roi qui est venu pour nous sauver ». Par conséquent, tout comme les péchés annuels des Israélites étaient expiés le jour des expiations dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, il y a près de 2000 ans, est venu dans ce monde pour être baptisé et saigné à mort sur la croix, pour compléter l'évangile de l'expiation de tous nos péchés. Lisons maintenant un passage du Lévitique. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes leurs transgressions, tous leurs péchés, et les mettra sur la tête du bouc, puis il le fera partir dans le désert par l'intermédiaire d'un homme convenable. Le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée, puis il lâchera le bouc dans le désert. Lévitique, chapitre 16, versets 21 à 22. Il est écrit que les péchés de tous les hommes étaient mis sur la tête du bouc, comme il est également indiqué dans Lévitique 16. Toutes leurs transgressions signifient tous les péchés qu'ils ont commis dans leur cœur, tous les péchés qu'ils ont commis avec leur chair. Et toutes leurs transgressions étaient mises sur la tête du sacrifice pour le péché par l'imposition des mains. Par la loi de Dieu, nous devons avoir une vraie connaissance de tous nos péchés. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi? Pour nous donner la connaissance du péché. La loi et les commandements de Dieu sont composés de 613 articles. En fait, Quand on y pense, nous avons fait ce qu'il nous a dit de ne pas faire et n'avons pas fait ce qu'il nous a dit de faire. Nous sommes donc pécheurs. Et il est écrit dans la Bible que Dieu nous a donné ses lois pour que nous prenions conscience de nos péchés. Romains, chapitre 3, verset 20. Cela signifie qu'il nous a donné sa loi et ses commandements pour nous apprendre que nous sommes pécheurs. Il ne les a pas donnés parce que nous sommes capables de les respecter, mais pour que nous connaissions nos péchés. Il ne nous a pas donné sa loi et ses commandements pour que nous les respections. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un chien vive comme un être humain. De la même manière, nous ne pouvons jamais vivre selon la loi de Dieu, mais nous ne pouvons réaliser nos péchés que par sa loi et ses commandements. Dieu nous a donné la loi parce que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes des masses de péchés. Vous êtes des meurtriers, des fornicateurs, des malfaiteurs. Il nous a dit de ne pas tuer, mais nous tuons néanmoins dans notre cœur et parfois dans la réalité. Cependant, parce qu'il est écrit dans la loi que nous ne devons pas tuer, nous savons que nous sommes des meurtriers, en disant « Ah, j'ai eu tort. Je suis un pécheur parce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai péché. » Ainsi, pour sauver le peuple d'Israël du péché, Dieu a permis à Aaron d'offrir le sacrifice d'expiation dans l'Ancien Testament, et c'est Aaron qui faisait l'expiation pour le peuple une fois par an. Dans l'Ancien Testament, deux sacrifices pour le péché devaient être offerts à Dieu le jour de l'expiation. L'un était offert devant Dieu, tandis que l'autre était envoyé dans le désert après l'imposition des mains, emportant avec lui tous les péchés annuels des Israélites. Avant que le bouc ne soit envoyé dans le désert par la main d'un homme approprié, le grand prêtre posait ses mains sur la tête du bouc vivant et confessait les péchés d'Israël. « Seigneur, le peuple a tué, forniqué, volé, adoré les idoles. Nous avons péché. » Le désert est une terre de sable et de désert. Le bouc émissaire était envoyé dans le désert sans fin et mourut. Lorsqu'il était renvoyé, le peuple d'Israël continuait à le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse au loin et croyait que leur péché avait disparu avec le bouc émissaire. Le peuple a gagné la paix de l'esprit et le bouc émissaire est mort dans le désert pour les péchés annuels de tous les Israélites. Et Dieu a expié tous nos péchés par l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Tous nos péchés ont été complètement effacés par le baptême de Jésus et son sang sur la croix. Jésus est Dieu et notre Sauveur. Il est le Fils de Dieu qui est venu pour sauver toute l'humanité du péché, et il est le Créateur qui nous a créés à son image. Il est descendu dans ce monde pour nous sauver du péché. Non seulement les péchés quotidiens que nous commettons avec notre chair, mais aussi tous les péchés à venir. Tous les péchés de notre esprit et de notre chair ont été transférés sur Jésus. Ainsi, il a dû être baptisé par Jean-Baptiste pour accomplir toute la justice de Dieu, l'expiation complète pour tous les péchés du monde. 3 ans avant que Jésus ne soit crucifié, lorsqu'il a commencé son ministère public, il a enlevé tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Son salut de l'humanité par l'expiation de tous nos péchés a commencé avec son baptême. Dans le Jourdain, à un endroit où l'eau arrivait jusqu'à la taille, Jean-Baptiste posa ses mains sur la tête de Jésus et l'immergea dans l'eau. Ce baptême était le même que l'imposition des mains dans l'Ancien Testament et avait le même effet de transférer tous les péchés. Être immergé dans l'eau signifiait la mort, et sortir de l'eau signifiait la résurrection. Ainsi, en étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus avait accompli et révélé ces 3 choses, l'enlèvement de tous les péchés, la crucifixion et la résurrection. Nous ne pouvons être sauvés que si nous obéissons aux paroles par lesquelles Jésus nous a sauvés du péché. Dieu avait décidé de nous sauver par Jésus, et ainsi l'alliance qu'il avait conclue dans l'Ancien Testament s'est accomplie de cette manière. Et Jésus marcha jusqu'à la croix avec tous nos péchés sur sa tête. Quel genre de travail nous reste-t-il à faire puisque Jésus a effacé tous nos péchés? Tout ce que nous avons à faire, c'est d'avoir foi dans les paroles de Dieu. Dans Jean, chapitre 1, verset 29, il est écrit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste a témoigné « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain. Croyez-le. Alors vous serez bénis par l'expiation de tous vos péchés. Nous devons avoir foi en la parole de Dieu. Nous devons mettre de côté nos propres pensées et notre entêtement, et simplement croire en la vérité selon laquelle Jésus a enlevé tous les péchés du monde et obéir aux paroles écrites de Dieu. Dire que Jésus a enlevé tous les péchés du monde et dire qu'il a accompli la justice de Dieu en expiant nos péchés, c'est exactement la même chose. Et l'imposition des mains et le baptême sont également la même chose. Que l'on dise tout, tout entier ou l'ensemble, le sens reste le même. Le sens du mot imposition des mains dans l'Ancien Testament reste le même dans le Nouveau Testament, sauf que le mot baptême est utilisé à la place. En fin de compte, Jésus a été baptisé et jugé sur la croix pour expier tous nos péchés. Et nous sommes sauvés lorsque nous croyons en cet évangile originel. Quand nous disons que Jésus a enlevé tous les « le péché du monde », Jean, chapitre 1, verset 29, qu'entendons-nous par les péchés du monde? Nous entendons tous les péchés avec lesquels nous sommes nés et toutes les mauvaises pensées, adultère, fornication, meurtre, vol, convoitise, méchanceté, tromperie, débauche, mauvais œil, blasphème, orgueil, folie qui habitent notre esprit. Cela signifie tous les péchés et les transgressions de la chair et du cœur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 6, verset 23. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux, chapitre 9, verset 22. Comme il est dit dans ces versets, tous les péchés doivent être payés. Et Jésus-Christ, pour sauver toute l'humanité du péché, a offert sa propre vie et a payé le salaire du péché pour nous une fois pour toutes. Par conséquent, tout ce que nous avons à faire est de croire au baptême de Jésus et à son sang, à l'évangile originel, et à l'existence de Jésus comme notre Dieu et notre Sauveur pour être libérés de tous nos péchés. L'expiation pour les péchés de demain. Avons-nous encore besoin d'offrir un sacrifice pour nos péchés? Plus jamais. Les péchés de demain et d'après-demain, ainsi que les péchés que nous commettons jusqu'au jour de notre mort, sont également inclus dans le péché du monde, tout comme les péchés d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier sont également inclus dans le péché du monde. Les péchés des gens de la naissance à la mort font tous partie du « le péché du monde », et le péché du monde a été transmis à Jésus par son baptême. Par conséquent, tous les péchés que nous commettrons jusqu'à notre mort ont déjà été enlevés de nous. Et nous n'avons qu'à croire en cet évangile originel, les paroles écrites de Dieu, et obéir pour être sauvés. Nous devrions mettre de côté nos propres pensées pour être rachetés de tous nos péchés. Vous vous demandez peut-être, comment pourrait-il ôter les péchés qui n'ont pas encore été commis? Alors, je vous demanderai en retour, chaque fois que nous péchons, Jésus devrait-il revenir dans ce monde pour verser son sang encore et encore? Dans l'évangile de la nouvelle naissance, il y a la loi de l'expiation des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux, chapitre 9, verset 22. Quand quelqu'un voulait être racheté de ses péchés à l'époque de l'Ancien Testament, il devait transférer ses péchés en posant ses mains sur un sacrifice pour le péché, et le sacrifice pour le péché devait mourir pour ses péchés. De la même manière, le Fils de Dieu est descendu dans ce monde pour sauver toute l'humanité. Il a été baptisé pour enlever tous nos péchés, et il a versé son sang sur la croix pour payer le salaire de nos péchés, et il est mort sur la croix en disant « Tout est accompli ». Il a été ressuscité des morts après 3 jours, et est maintenant assis à la droite de Dieu. Il est devenu notre Sauveur pour toujours. Pour recevoir l'élimination complète de nos péchés, nous devons rejeter toutes nos idées préconçues et abandonner la croyance religieuse selon laquelle nous devons être rachetés de nos péchés quotidiens jour après jour. Pour que les péchés de l'humanité soient expiés, un sacrifice a dû être fait une fois pour toutes. Dieu au ciel a transféré tous les péchés du monde sur son propre Fils par son baptême et l'a fait crucifier pour nous. Et par sa résurrection d'entre les morts, notre salut a été achevé. Sûrement il a porté nos chagrins et supporté nos douleurs. Pourtant nous l'avons estimé frappé, battu par Dieu et affligé. Mais il était blessé pour nos transgressions, il était meurtri pour nos iniquités. Et le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans Ésaïe, chapitre 53, il est dit que toutes les transgressions et les iniquités du monde, de toute l'humanité, ont été transférées sur Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 4, il est écrit « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde ». Cela nous dit qu'il nous a choisis en lui avant la création du monde. Avant même que le monde ne soit créé, Dieu a choisi de faire de nous son peuple, les justes sans défaut en Christ. Quoi que nous ayons pu penser auparavant, nous devons maintenant croire et obéir aux paroles de Dieu, aux paroles de l'eau, du sang et de l'esprit. Dieu nous a dit que son agneau, Jésus-Christ, a enlevé les péchés du monde et a fait l'expiation pour toute l'humanité. Dans Hébreux, chapitre 10, il est écrit « En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Hébreux, chapitre 10, verset 1. Il est dit ici que le fait d'offrir continuellement les mêmes sacrifices année après année ne peut jamais nous rendre parfaits. La loi est une ombre des biens à venir, et non l'image même des choses vraies. Jésus-Christ, le Messie qui devait venir, nous a rendus parfaits une fois pour toutes, tout comme les péchés annuels d'Israël ont été expiés une fois pour toutes, en étant baptisés et en étant crucifiés pour expier tous nos péchés. C'est pourquoi Jésus dit dans Hébreux, chapitre 10, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit », il ajoute, « et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux, chapitre 10, versets 9 à 18. Et nous croyons que Jésus nous a sauvés de tous les péchés du monde par son baptême et son sang sur la croix. Le salut de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit qui est gravé dans nos cœurs et nos esprits. Sommes-nous justes simplement parce que nous ne péchons plus? Non. Nous sommes justes parce que Jésus a ôté tous nos péchés et que nous croyons en lui. Croyez-vous tous en son salut parfait? Amen. Obéissez-vous avec foi aux paroles de Dieu selon lesquelles Jésus-Christ lui-même a été baptisé et a saigné sur la croix pour nous sauver? Nous devons obéir pour naître de nouveau. Lorsque nous croyons que Jésus-Christ, par l'évangile de l'élimination du péché, a lavé tous nos péchés et tous les péchés du monde, nous pouvons être sauvés. Nous ne pouvons jamais devenir parfaits en obéissant à la loi de Dieu, mais nous pouvons devenir parfaits par notre foi dans les œuvres de Jésus-Christ. Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés par son baptême dans le Jourdain et a subi le jugement et la punition pour tous nos péchés sur la croix. En croyant en cet évangile de tout notre cœur, nous pouvons être rachetés de tous nos péchés et devenir justes. Le croyez-vous? Le baptême de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection ont pour but la loi du salut basée sur l'amour infini de Dieu qui a éliminé tous les péchés de l'humanité. Dieu nous aime tels que nous sommes, et il est juste, c'est pourquoi il nous a d'abord rendus justes. Jésus nous a rendus justes en prenant sur lui tous nos péchés par son baptême. Pour laver tous nos péchés, il a envoyé son Fils unique, Jésus, dans ce monde pour nous. Il a permis à Jésus de se charger de tous les péchés du monde par le baptême de Jésus et a ensuite transmis le jugement à son Fils pour tous nos péchés. Il a fait de nous ses enfants justes par le salut de l'eau et du sang, l'agape de Dieu. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 10, verset 16, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Dans nos cœurs et nos esprits, sommes-nous des pécheurs devant Dieu ou sommes-nous des justes? Si nous avons foi en la parole de Dieu, nous devenons justes. Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés et a été jugé pour eux. Jésus-Christ est notre Sauveur. Nous pouvons penser, puisque nous péchons tous les jours, comment pouvons-nous être justes? Nous sommes assurément des pécheurs. Mais lorsque nous obéissons aux paroles de Dieu, tout comme Jésus-Christ a obéi au Père, nous devenons justes. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, nous avions du péché dans notre cœur avant de naître de nouveau. Après avoir pris dans notre cœur l'évangile de la rémission des péchés, nous avons été sauvés de tous nos péchés. Lorsque nous ne connaissions pas l'évangile, nous étions pécheurs. Mais nous sommes devenus justes lorsque nous avons cru au salut de Jésus, et nous sommes alors devenus les enfants justes de Dieu. C'est la foi en la justice dont parle l'apôtre Paul. La foi en l'évangile de l'élimination du péché a fait de nous des justes. Ni l'apôtre Paul, ni Abraham, ni les ancêtres de la foi ne sont devenus justes par leurs œuvres, mais plutôt en ayant la foi et en obéissant aux paroles de Dieu, les paroles de sa bénédiction. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 18, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Comme il est écrit, « Dieu nous a sauvés afin que nous n'ayons pas à mourir pour nos péchés. » Croyez-vous en cela ? Amen. Philippiens, chapitre 2, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Jésus-Christ ne s'est pas présenté dans le monde avec une quelconque réputation grandiose. Au contraire, il a pris sur lui la forme d'un serviteur et est venu sous la forme d'un être humain. Il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort pour nous sauver. C'est pourquoi nous louons Jésus. Il est notre Dieu, notre Sauveur et notre Roi. La raison pour laquelle nous glorifions Dieu et louons Jésus est que Jésus a obéi à la volonté de son Père jusqu'au bout. S'il n'avait pas obéi, nous ne glorifierions pas le Fils de Dieu aujourd'hui. Mais parce que le Fils de Dieu a obéi à la volonté de son Père jusqu'à la mort, toute la création et tous les hommes sur cette terre le glorifient et le feront pour toujours. Jésus-Christ est devenu l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, et il est écrit qu'il les a enlevés par son baptême. Cela fait maintenant environ 2000 ans qu'il a enlevé les péchés du monde. Et parce que vous et moi vivons dans ce monde depuis notre naissance, tous nos péchés sont également inclus dans les péchés du monde. Allons-nous devenir pécheurs si nous péchons demain ? Non, parce que Jésus a enlevé tous nos péchés du passé, du présent et du futur. Même si nous ne séparons pas le péché originel de nos propres transgressions commises tout au long de notre vie, ne sommes-nous pas quand même en train de pécher depuis notre naissance ? Jésus savait que nous pécherions du jour de notre naissance au jour de notre mort, et il a effacé tous nos péchés à l'avance. Le voyez-vous maintenant ? Si nous devions vivre jusqu'à 70 ans, nos péchés suffiraient à remplir plus d'une centaine de camions bennes. Mais Jésus a ôté tous les péchés en une seule fois et pour tout le monde par son baptême, et il a pris le jugement pour nos péchés à la croix. Si Jésus avait enlevé seulement le péché originel, nous serions tous morts et irions en enfer. Même si nous pensions qu'il ne pouvait pas enlever tous nos péchés, cela ne pourrait jamais changer le fait que Jésus a effacé tous nos péchés. Combien de péchés pouvons-nous commettre dans ce monde ? Tous les péchés que nous commettons sont inclus dans tous les péchés du monde. Quand Jésus a dit à Jean de le baptiser, c'est exactement ce qu'il voulait dire. Jésus a témoigné lui-même qu'il avait enlevé tous nos péchés. Dieu a envoyé son serviteur devant Jésus et lui a demandé de baptiser Jésus. Ainsi, en se faisant baptiser par Jean, le représentant de l'humanité, en inclinant la tête devant lui pour être baptisé, Jésus a enlevé tous les péchés de toute l'humanité. Tous nos péchés de 20 à 30 ans, de 30 à 40 ans, et ainsi de suite. Même les péchés de nos enfants ont été inclus dans les péchés du monde que Jésus a enlevés par son baptême. Qui peut dire qu'il y a du péché dans ce monde ? Jésus-Christ a enlevé tous les péchés du monde. Nous pouvons tous être sauvés lorsque nous croyons dans notre cœur, sans l'ombre d'un doute, en ce que Jésus a fait pour expier tous nos péchés, son baptême et l'effusion de son précieux sang. La plupart des gens vivent leur vie turbulente, absorbés par leurs propres pensées, parlant de leur vie comme si leur vie était tout. Mais il y en a beaucoup qui ont mené des vies plus difficiles. Beaucoup de gens, moi y compris, ont eu des vies turbulentes. Comment pouvez-vous ne pas comprendre ou ne pas accepter l'évangile de l'élimination du péché accompli par le baptême de Jésus et son sang ? Le salut des pécheurs est accompli. Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds de Pierre ? Parce qu'il voulait que Pierre ait une foi forte dans le fait qu'il avait déjà lavé tous ses péchés futurs par son baptême. Lisons Jean, chapitre 19. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Jean, chapitre 19, versets 17 à 20. Chers amis, Jésus-Christ a pris sur lui tous les péchés du monde, et il a été condamné à être crucifié au tribunal de Pilate. Maintenant, réfléchissons ensemble à cette scène. Au verset 28, nous lisons « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie. » Jésus a ôté tous nos péchés pour que l'Écriture soit accomplie. Et il a dit « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean, chapitre 19, versets 29 à 30. Et après 3 jours, il est ressuscité des morts. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et sa mort sur la croix sont inextricablement liés, l'un n'a aucune raison d'exister sans l'autre. Par conséquent, louons le Seigneur Jésus de nous avoir sauvés par son évangile de l'élimination du péché. La chair de l'humanité suit toujours les besoins de la chair, et nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher avec notre chair. Jésus-Christ nous a donné son baptême et son sang pour nous sauver des péchés de notre chair. Il nous a sauvés des péchés de notre propre chair par son évangile. Ceux qui ont été complètement délivrés de leurs péchés peuvent, en croyant en Jésus, né à Bethléem, baptisé dans le Jourdain, mort sur la croix et ressuscité après 3 jours, entrer dans le royaume des cieux à tout moment. Par conséquent, nous louons le Seigneur et glorifions son nom pour toujours. Dans le dernier chapitre de Jean, Jésus est allé en Galilée après avoir été ressuscité des morts. Il s'approcha de Pierre et lui dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Pierre lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit « Paix mes agneaux. » Pierre a tout compris, l'évangile du baptême de Jésus et de son sang, le fait que le péché a été effacé. Maintenant qu'il croyait en l'évangile de l'eau et du sang qui éliminait le péché, et qu'il comprenait la raison pour laquelle Jésus lui avait lavé les pieds, sa foi en Jésus devint beaucoup plus forte. Lisons encore Jean, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il pouvait confier ses agneaux à Pierre parce que Pierre était son disciple, parce que Pierre avait été complètement sauvé, et parce que Pierre était devenu un serviteur de Dieu juste et parfait. Si Pierre était devenu pécheur par ses péchés quotidiens, Jésus ne lui aurait pas dit de prêcher l'évangile de l'expiation des péchés, car lui, y compris les autres disciples, ne pouvait s'empêcher de pécher chaque jour dans la chair. Mais Jésus leur a dit de prêcher l'évangile qui effaçait tous leurs péchés parce qu'ils croyaient au baptême de Jésus et à son sang sur la croix, l'évangile de l'expiation des péchés. Seigneur, tu sais que je t'aime. Deviendras-tu à nouveau ce pécheur si tu commets un nouveau péché? Non. Jésus a déjà effacé tous tes futurs péchés au Jourdain. Réfléchissons aux paroles de Jésus à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Sa confession d'amour était vraie, car elle provenait de la foi en l'évangile de l'expiation pour tous les péchés. Si Jésus n'avait pas enseigné à Pierre et aux autres disciples l'évangile qui efface les péchés en leur lavant les pieds, ils n'auraient pas pu confesser leur amour de cette façon. Au lieu de cela, lorsque Jésus est venu vers eux et leur a demandé « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Pierre aurait répondu « Seigneur, je suis incomplet et je suis un pécheur. Je suis un pécheur qui ne peut pas t'aimer plus que ceci. S'il te plaît, quitte-moi. » Et Pierre se serait enfui et se serait caché de Jésus. Mais réfléchissons aux réponses de Pierre. Il a été béni par l'évangile de l'effacement des péchés, qui est le baptême de Jésus et son sang qui a sauvé toute l'humanité. C'est pourquoi il dit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Cette confession d'amour provenait de sa foi en l'évangile de l'effacement des péchés de Jésus. Pierre croyait au véritable évangile de l'élimination des péchés, par lequel Jésus avait éliminé tous les péchés du monde, même ceux que les gens étaient obligés de commettre à l'avenir en raison de leur imperfection et de la faiblesse de leur chair. Parce que Pierre croyait fermement en l'évangile de l'élimination des péchés, et parce qu'il croyait aussi que Jésus était l'agneau de Dieu, il a pu répondre au Seigneur sans hésitation. Le salut de Jésus venait de l'évangile de l'élimination des péchés, et ainsi Pierre avait été sauvé de tous ses péchés quotidiens aussi. Pierre croyait au salut par l'évangile de l'élimination de tous les péchés du monde. Êtes-vous aussi comme Pierre? Pouvez-vous aimer et faire confiance à Jésus, qui a effacé tous nos péchés par son évangile d'élimination des péchés, c'est-à-dire par son baptême et son sang? Comment pouvez-vous ne pas croire en lui ni l'aimer? Il n'y a pas d'autre moyen. Si Jésus n'avait enlevé que les péchés du passé ou du présent et nous avait laissé les péchés de l'avenir, nous ne pourrions pas le louer comme nous le faisons aujourd'hui. En plus de cela, nous irions tous sûrement en enfer. Par conséquent, nous devrions tous professer que nous avons été sauvés en croyant en l'évangile de l'élimination des péchés. La chair est toujours encline au péché, et nous péchons tout le temps. Par conséquent, nous devons confesser que nous avons été sauvés en croyant en l'évangile de l'abondante élimination des péchés que Jésus nous a donnés, c'est-à-dire le baptême et le sang de Jésus. Si nous ne croyons pas en l'évangile de l'expiation des péchés, qui est le baptême et le sang de Jésus, aucun croyant ne serait sauvé de ses péchés de toute une vie. De plus, si nous étions rachetés de tous nos péchés de toute une vie en les confessant et en nous repentant à chaque fois, nous serions probablement trop paresseux pour pouvoir rester justes tout le temps, et nous aurions toujours du péché dans nos cœurs. Si tel était le cas, nous continuerions à être des pécheurs, et ne serions pas capables d'aimer Jésus ou de nous rapprocher de lui. Alors nous ne serions pas capables de croire au salut de Jésus, et nous ne serions pas capables de le suivre jusqu'à la fin de nos vies. Cependant, Jésus nous a donné l'évangile de l'élimination des péchés, et a sauvé ceux qui ont cru. Il est devenu le Sauveur parfait, et a lavé toutes les offenses que nous commettons chaque jour dans nos vies, afin que nous puissions vraiment l'aimer. Par conséquent, nous, les croyants, ne pouvons pas nous empêcher d'aimer l'évangile du baptême et du sang de Jésus, qui a éliminé nos péchés. Tous les croyants peuvent aimer Jésus pour toujours, et devenir captifs de l'amour du salut par l'évangile de l'élimination des péchés que Jésus nous a donné. Chers amis, si Jésus avait laissé ne serait-ce qu'un petit péché derrière lui, tu ne pourrais pas croire en Jésus, ni devenir le témoin de l'évangile de l'élimination des péchés. Vous ne pourriez pas travailler comme serviteur de Dieu. Mais si vous croyez en l'évangile de l'élimination des péchés, vous pouvez être sauvé de tous les péchés du monde. Il vous permet d'être sauvé de tous les péchés du monde lorsque vous réalisez le véritable évangile de l'élimination des péchés enregistré dans les paroles de Jésus. M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Qu'est-ce qui nous a fait aimer Jésus plus que toute autre chose? Son amour pour nous à travers son baptême qui a lavé tous nos péchés, même tous nos péchés futurs. Dieu a confié ses agneaux à ses serviteurs, qui ont entièrement cru en l'évangile de l'élimination des péchés. Jésus a demandé trois fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? » Et Pierre a répondu à chaque fois, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Maintenant, réfléchissons aux réponses de Pierre. Nous pouvons voir que ce n'était pas l'expression de sa volonté, mais sa foi dans l'évangile de l'élimination des péchés. Lorsque nous aimons quelqu'un, et si cet amour est né de notre volonté, il peut faiblir lorsque nous faiblissons. Mais si cet amour dépendait de la force de son amour, alors il durerait pour toujours. L'amour de Dieu, à savoir l'abondante expiation de tous nos péchés, le salut de l'eau du baptême de Jésus et de l'Esprit, est ainsi. Notre foi en l'évangile de l'élimination des péchés devrait servir de fondement à l'amour du Seigneur pour nous. Si nous l'aimions avec notre seule volonté comme fondement, nous trébucherions chaque jour et finirions par nous haïr à cause de nos iniquités. Cependant, Jésus a lavé tous nos péchés, le péché originel, nos péchés quotidiens du passé, les péchés de demain et tous les péchés de notre vie entière. Il n'a exclu personne sur la surface de la terre de son salut. Tout cela est vrai. Si notre amour et notre foi dépendaient de notre volonté, nous échouerions dans notre foi. Mais parce que notre amour et notre foi dépendent de l'évangile de l'élimination des péchés que Jésus nous a donnés, nous sommes déjà les enfants de Dieu, les justes. Parce que nous croyons au salut de l'eau et de l'esprit, nous sommes sans péché. Puisque notre salut ne vient pas de notre foi en nous-mêmes mais de l'amour de Dieu et de sa loi du vrai salut qui a éliminé nos péchés, nous sommes les justes, peu importe à quel point nous sommes incomplets ou faibles dans la vie réelle. Nous irons dans le royaume des cieux, et, à la fin, nous louerons Dieu pendant toute l'éternité. Croyez-vous cela? Première épître de Jean, chapitre 4, verset 10 déclare « Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Jésus nous a sauvés par l'eau et l'Esprit, donc nous devons donc avoir foi en l'évangile de l'élimination des péchés, le baptême de Jésus et son sang. Si Dieu ne nous avait pas sauvés par l'évangile de l'élimination des péchés, nous n'aurions pas pu être sauvés, quelle que soit la ferveur avec laquelle nous croyons. Mais Jésus a lavé tous les péchés que nous commettons dans nos cœurs et avec notre chair. Pour que nous croyions en Dieu et devenions justes, nous devons être certains de notre salut par la foi dans les paroles de l'eau et de l'Esprit, l'évangile de l'élimination des péchés. L'évangile de l'élimination de tous les péchés du monde consiste à avoir foi dans le baptême de Jésus et dans son sang. L'évangile de l'élimination des péchés est la vraie foi, le vrai fondement du salut, la clé de l'évangile de Dieu. Nous devons rejeter la foi en notre propre volonté. D'où vient la vraie foi? Elle vient de l'amour du Seigneur, qui a déjà lavé tous nos péchés présents et futurs. La foi ou l'amour issus de notre propre volonté ne sont ni le véritable amour, ni la véritable foi. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui croient d'abord en Jésus avec bonne volonté, puis qui abandonnent complètement leur foi à cause du péché dans leur cœur. Mais nous devons savoir que Jésus a lavé tous les péchés du monde, non seulement les iniquités insignifiantes, mais aussi les grands péchés commis par ignorance. Et dans Jean, chapitre 13, afin d'enseigner à ses disciples combien son salut était universel, Jésus a rassemblé ses disciples avant d'être crucifié. Au cours de son repas avec les disciples, il s'est levé, et leur a lavé les pieds pour illustrer la vérité de son salut. Nous devrions tous connaître et croire en l'évangile de l'élimination des péchés, que Jésus a enseigné aux disciples en leur lavant les pieds. Mais Pierre refuse catégoriquement que Jésus lui lave les pieds. « Jamais tu ne me laveras les pieds. » Et c'était l'expression de la foi née de sa propre volonté. Mais Jésus lui dit, Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Maintenant, avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons comprendre les paroles de Jésus. C'est la parole de vérité, l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'élimination du péché, qui permet au pécheur de devenir juste en croyant de tout son cœur. Pierre alla pêcher avec les disciples. Il pêchait comme il le faisait avant de rencontrer Jésus. Puis Jésus apparut devant eux et les appela. Jésus leur avait préparé le petit déjeuner, et pendant qu'il le prenait, Pierre comprit le sens des paroles que Jésus avait prononcées auparavant. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Il avait enfin compris ce que Jésus avait voulu dire en lui lavant les pieds. « Le Seigneur a effacé tous mes péchés. Tous les péchés que j'ai commis à cause de mes faiblesses, y compris tous les péchés que je commettrai également à l'avenir. » Pierre a donc abandonné la foi née de sa volonté et a commencé à croire au baptême et au sang de Jésus, l'évangile de l'élimination des péchés. Après le petit déjeuner, Jésus a demandé à Pierre, « M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Fortifié de sa foi en l'amour de Jésus, Pierre a confessé, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Pierre a pu le dire parce qu'il avait compris ce que Jésus voulait dire quand il a dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Il pouvait confesser sa vraie foi, la foi dans le baptême et le sang de Jésus, l'évangile qui efface complètement le péché. Après cela, il est devenu un véritable serviteur de Dieu. C'est pourquoi Pierre et les autres disciples prêchèrent l'Évangile jusqu'à la fin de leurs jours. Même Paul, qui avait persécuté sans pitié les chrétiens, témoigna de l'Évangile pendant ces jours difficiles de l'Empire romain. Comment devenir un vrai serviteur de Dieu? En croyant en son expiation éternelle pour tous mes péchés. Parmi les 12 disciples de Jésus, Judas vendit Jésus et se pendit plus tard. Et c'est l'apôtre Paul qui prit sa place. Les disciples avaient élu Matthias parmi eux, mais c'est Paul que Dieu a élu. Alors Paul est devenu un apôtre de Jésus et a prêché l'évangile de l'effacement complet des péchés avec le reste des disciples de Jésus. La plupart des disciples de Jésus sont morts en martyrs. Même lorsqu'ils étaient menacés de mort, ils ont continué à prêcher l'évangile original. Jésus-Christ a lavé tous les péchés de votre chair par son évangile du baptême et du sang, c'est-à-dire par son évangile de l'élimination des péchés. Jésus a enlevé vos péchés par son baptême dans le Jourdain, et a pris le jugement pour vous à la croix. Croyez en l'évangile du baptême de Jésus et en son sang sur la croix, et soyez sauvés. Beaucoup ont été sauvés en entendant l'évangile et en y croyant. C'était la puissance de la foi en l'évangile du baptême de Jésus, de son sang et de l'Esprit. Les disciples ont prêché l'évangile de l'eau et de l'Esprit, Jésus est Dieu et le Sauveur. C'est parce qu'ils ont témoigné de l'évangile de l'eau et de l'Esprit que vous et moi pouvons maintenant entendre l'évangile du baptême et du sang de Jésus, du salut, et être sauvés du péché. Grâce à l'amour infini de Dieu et au salut complet de Jésus, nous sommes tous devenus les disciples de Jésus. Croyez-vous tous ? Jésus nous a tant aimés qu'il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'Esprit, il a effacé complètement nos péchés, et nous sommes devenus des disciples justes de Jésus. Afin d'enseigner le véritable évangile qui élimine le péché, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur enseigner, ainsi qu'à nous, que tous les péchés du monde, tous les péchés que nous commettons tout au long de notre vie, ont été complètement effacés lorsque Jésus a été baptisé et a versé son sang sur la croix. Et nous remercions Jésus pour son amour et pour l'évangile qui a effacé nos péchés. Jésus nous a enseigné deux choses en lavant les pieds des disciples. Premièrement, c'était pour leur enseigner, comme il avait dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Il faut savoir que tous nos péchés ont été lavés par l'évangile de l'élimination des péchés, le baptême de Jésus et son sang. La deuxième leçon était que, tout comme Jésus s'est humilié pour sauver les pécheurs et les rendre justes, nous, les personnes régénérées, devrions également servir les autres en prêchant l'évangile de l'élimination des péchés. Il est juste que nous, qui sommes venus les premiers, servions ceux qui viennent après. Deux raisons pour lesquelles Jésus a lavé les pieds des disciples la veille de la fête de la Pâque sont claires, et elles existent toujours au sein de l'Église. Un disciple ne peut jamais être plus élevé que son enseignant. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile au monde et le servons comme si nous servions Jésus. Et nous, qui avons été sauvés en premier, devons servir ceux qui viendront après nous. Pour enseigner cela, Jésus a lavé les pieds des disciples. De plus, en lavant les pieds de Pierre, il nous a montré qu'il est le Sauveur parfait pour nous afin que nous ne soyons plus jamais trompés par le diable. Vous pouvez tous être sauvés en croyant en l'Évangile de l'élimination des péchés, c'est-à-dire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus a lavé tous nos péchés par son baptême, sa crucifixion et sa résurrection, et seuls ceux qui croient en son évangile peuvent être sauvés des péchés du monde pour toujours. Avoir foi en l'évangile qui a effacé tous nos péchés quotidiens. Nous pouvons couper court aux tromperies du diable en croyant à l'évangile qui a effacé nos péchés, c'est-à-dire aux paroles de l'eau et de l'esprit. Les gens sont facilement trompés par le diable, et le diable nous murmure continuellement à l'oreille. Sachant que la chair des gens pêche dans le monde, comment peuvent-ils être sans péché? Tous les gens sont pécheurs. Nous connaissons la réponse. Sachant que Jésus a enlevé tous les péchés de notre chair par son baptême, comment un croyant peut-il être avec le péché? Jésus a payé en totalité tout le salaire du péché, et donc quel péché nous reste-t-il à payer? Si nous ne croyons pas en l'évangile de l'eau et du sang, les paroles du diable semblent raisonnables. Mais, si nous avons l'évangile de notre côté, nous pouvons avoir une foi inébranlable dans la vérité des paroles de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir foi en l'évangile de la nouvelle naissance d'eau et de sang. La vraie foi consiste à croire en l'évangile du baptême de Jésus, de son sang sur la croix, de sa mort et de sa résurrection. Avez-vous déjà vu une image d'un modèle du tabernacle sacré? C'est une petite maison. La maison est divisée en deux parties, la partie extérieure est le lieu saint, et la partie intérieure est le lieu très saint qui abrite le propitiatoire. Il y a un total de 60 colonnes dans la cour extérieure du tabernacle, et le lieu saint a 48 planches. Nous devons avoir une image du tabernacle sacré dans notre esprit afin de comprendre la signification des paroles de Dieu. De quoi était faite la porte de la cour du tabernacle? De quoi était faite la porte de la cour du tabernacle? D'un voile tissé de fil bleu, pourpre et écarlate, et de fin lin. La porte de la cour du tabernacle est décrite dans Exode, chapitre 27, verset 16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Les matériaux utilisés pour la porte de la cour du tabernacle étaient du fil bleu, pourpre et cramoisi, et du fil de fin lin. Il était tissé de manière complexe et très colorée. Dieu avait ordonné à Moïse de tisser la porte de manière colorée avec du fil bleu, pourpre et cramoisi, afin qu'il soit facile pour tout le monde de trouver l'entrée. Et la porte tissée avec du fil bleu, pourpre, cramoisi et du fil de fin lin était suspendue à quatre colonnes. Ces quatre matériaux symbolisent le plan du salut de Dieu, par lequel il sauverait tous ceux qui croiraient en son Fils, au baptême et au sang de Jésus, et en son être Dieu. Chacun des matériaux utilisés pour construire le Saint Tabernacle a une signification spécifique et représente la parole de Dieu et ses plans pour sauver l'humanité par Jésus. Maintenant, combien de matériaux différents ont été utilisés pour la porte de la cour du tabernacle sacré? Du fil bleu, pourpre et cramoisi, et du fil de lin fin. Et ces quatre éléments sont très importants pour nous aider à fortifier notre foi dans l'évangile de la régénération. Si ce n'était pas important, cette information ne serait pas consignée dans la Bible avec autant de détails. Étant donné que tous les matériaux utilisés pour la porte de la cour du tabernacle et le tabernacle étaient une partie importante du salut, ils devaient être faits de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fil de lin fin. Ce salut a effacé tous nos péchés quotidiens, nos péchés originels et les péchés à venir. Par conséquent, Dieu a révélé ces choses à Moïse et lui a dit de faire exactement ce qu'il lui avait dit. Que signifient les fils bleus, violets et cramoisis dans l'évangile de Dieu? Que symbolisent tous les matériaux utilisés pour le tabernacle? Le salut de Jésus par son baptême et son sang. À l'intérieur du tabernacle sacré, des fils bleus, pourpres et cramoisis, ainsi que du fil de lin fin, furent utilisés pour le voile qui pendait entre le lieu saint et le lieu très saint. Les mêmes matériaux furent utilisés pour les robes du grand prêtre qui servaient à l'intérieur du tabernacle sacré. Le fil bleu symbolise le baptême de Jésus. Dans 1 Épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, il est dit « Il y a aussi un antitype qui nous sauve maintenant, le baptême ». Le baptême de Jésus par lequel il a pris sur lui tous les péchés du monde fut confirmé par Pierre dans ce verset comme l'antitype du salut de l'expiation. Tous nos péchés, tous les péchés du monde, furent transférés sur Jésus lors de son baptême. Par conséquent, le fil bleu, le baptême de Jésus, est la partie la plus essentielle de la parole du salut. Le fil écarlate symbolise le sang de Jésus et le fil violet symbolise la royauté, le statut de Jésus en tant que roi et Dieu. Par conséquent, les trois couleurs de fil étaient nécessaires à notre foi en Jésus et en son salut. Le grand prêtre portait un magnifique vêtement appelé éphod, et sa tunique était entièrement bleue. Il portait un turban sur lequel était gravée une plaque d'or pur sur laquelle était gravée cette inscription « Sainteté à l'Éternel ». La plaque était attachée au turban par un cordon bleu. La vérité représentée par le fil bleu. Que symbolise le fil bleu? Le baptême de Jésus. J'ai cherché la signification du fil bleu dans la Bible. Que dit la Bible à propos du bleu? Nous devons comprendre le fil bleu parmi les fils bleus, violets et écarlates. Le fil bleu signifie le baptême de Jésus. Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre sur lui tous les péchés du monde. Matthieu, chapitre 3, verset 15. Si Jésus n'avait pas enlevé tous les péchés du monde par son baptême, nous n'aurions pas pu être sanctifiés devant Dieu. Par conséquent, Jésus-Christ a dû venir dans ce monde et être baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain pour enlever tous les péchés du monde. La raison pour laquelle il devait y avoir du fil bleu dans la porte de la cour du Saint-Tabernacle était que nous ne pouvions pas être sanctifiés sans le baptême de Jésus. Le fil écarlate signifiait la mort de Jésus. Le violet signifiait l'Esprit, d'où le statut de Jésus comme « seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs ». 1 Épître à Timothée, chapitre 6, verset 15. Le fil écarlate représentait le sang du Christ, qui a versé son sang sur la croix pour payer le salaire du péché pour toute l'humanité. Jésus-Christ est venu dans ce monde dans la chair pour prendre sur lui tous les péchés de l'humanité par son baptême, avant de se sacrifier sur la croix pour accomplir l'élimination complète du péché. Le baptême de Jésus est le véritable évangile de l'effacement des péchés, qui a été prophétisé à travers les couleurs du fil utilisé pour le tabernacle sacré de l'Ancien Testament. Les piliers du tabernacle étaient en bois d'acacia, et les bases étaient en bronze, et les bases en bronze étaient recouvertes de bandes d'argent. Tous les pécheurs devaient être jugés pour leur péché car le salaire du péché, c'est la mort. Avant que quelqu'un puisse être béni par Dieu pour naître de nouveau, il doit reconnaître qu'il doit être jugé pour ses péchés. Ainsi, Le baptême de Jésus du Nouveau Testament, représenté par le fil bleu du tabernacle sacré de l'Ancien Testament, a pris sur lui tous nos péchés. Jésus a porté nos péchés sur la croix pour les faire saigner et a été jugé pour eux. Ce faisant, il a sauvé tous ceux d'entre nous qui croient en l'évangile de l'anéantissement du péché. Il est le roi des rois et le Dieu saint. Bien-aimés, le baptême de Jésus était le salut de Jésus qui nous a sauvés en enlevant tous nos péchés. Jésus, qui est Dieu, est descendu dans le monde dans la chair. Il a été baptisé pour prendre tous les péchés du monde. Il a été crucifié et a versé son sang sur la croix pour accepter le jugement à notre place. Le baptême de Jésus nous dit sans l'ombre d'un doute qu'il était devenu le véritable sauveur de toute l'humanité. Nous pouvons également le voir dans les couleurs qui ont été utilisées pour la porte du Saint-Tabernacle. L'utilisation de fils de lin fin signifie qu'il nous a tous sauvés sans exception de tous les péchés du monde. Broder le tissu de la porte avec du fil bleu, violet et écarlate en fil de lin fin, c'était nous dire clairement la vérité du salut de Dieu. C'était essentiel au salut de l'expiation. Nous pouvons voir à partir des matériaux utilisés pour la porte du Saint-Tabernacle que Jésus-Christ ne nous a pas sauvés, nous les pécheurs, au hasard, sans planification. En suivant le plan minutieusement détaillé de Dieu, il fut baptisé et crucifié, puis ressuscité des morts pour accomplir le salut de l'humanité. Avec du fil bleu, violet et écarlate, les matériaux de l'évangile de l'effacement des péchés, Jésus a sauvé tous ceux qui croyaient en son salut. La cuve en bronze de l'Ancien Testament était une ombre du baptême du Nouveau Testament. Pourquoi les prêtres se lavaient-ils les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint? Parce qu'ils devaient se tenir devant Dieu sans aucun péché. La cuve était également en bronze. Le bronze représente le jugement que Jésus a subi pour nous. Le bassin d'eau symbolise la parole de l'Évangile, qui nous dit que toutes nos iniquités ont été lavées. Il nous montre comment le lavage de nos péchés a été effectué. C'est une ombre de la vérité selon laquelle tous les péchés du monde peuvent être lavés par la foi dans les paroles du baptême de Jésus. L'autel des holocaustes représente le jugement. L'eau de Jésus, qui est bleue, est l'évangile de l'effacement des péchés, le baptême de Jésus administré par Jean le Baptiste. Matthieu, chapitre 3, verset 15. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 5 à 10. C'est la parole du témoignage de l'évangile du salut par l'expiation. Dans 1 Épître de Jean, chapitre 5, il est écrit « Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » Il nous dit aussi que celui qui croit au Fils de Dieu a en lui le témoignage de l'eau, du sang et de l'Esprit. Dieu nous a permis d'être sanctifiés par la foi en l'évangile de l'expiation et d'entrer dans le Saint-Tabernacle. Par conséquent, nous pouvons maintenant vivre dans la foi, être nourris des paroles de Dieu, être bénis par lui et vivre la vie des justes. Devenir le peuple de Dieu signifie être sauvé par la foi en l'évangile de l'expiation et vivre à l'intérieur du Saint-Tabernacle. Beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'il suffit de croire sans penser à la signification des fils bleus, violets et écarlates de la porte du Saint-Tabernacle. Si quelqu'un croyait en Jésus sans connaître ces choses, sa foi ne serait pas vraie parce qu'il y aurait encore du péché dans son cœur. Les gens auraient encore du péché dans leur cœur parce qu'ils ne croient pas à la vérité de la nouvelle naissance par l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit qui efface les péchés. Si on demandait à quelqu'un d'évaluer quelqu'un qu'il connaissait à peine, et si, pour faire plaisir à l'auditeur, il répondait « Oui, je crois cette personne. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je la crois néanmoins. » Pensez-vous que l'auditeur serait content de l'entendre? Peut-être que certains d'entre vous le seraient, mais ce n'est pas le genre de confiance que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous croyions en l'évangile de l'effacement des péchés, le salut de Jésus symbolisé par le bleu, le baptême, le pourpre, la royauté et l'écarlate, le sang. Nous devons savoir, avant d'avoir foi en Jésus, comment il nous a sauvés de tout péché. Lorsque nous croyons en Jésus, nous devons savoir comment il nous a sauvés de tous nos péchés par l'eau, le baptême de Jésus, le sang, sa mort, et l'Esprit, Jésus étant Dieu. Lorsque nous comprenons vraiment, nous pouvons expérimenter la vraie foi et être possédés d'une foi complète. Notre foi ne serait jamais complète sans connaître cette vérité. La vraie foi ne vient que de la compréhension du témoignage du salut de Jésus, de l'évangile de l'effacement des péchés et du fait que Jésus est le vrai sauveur de l'humanité. À quoi ressemblerait alors la foi qui se moque de Jésus? Voyons voir. La foi qui se moque de Jésus. Qu'est-ce qui est le plus nécessaire pour avoir la foi? Une connaissance précise du baptême de Jésus. Vous devez savoir que croire en Jésus de manière arbitraire, c'est se moquer de lui. Si vous pensez, « J'ai du mal à croire, mais comme il est Dieu et comme il est le Fils de Dieu, je dois croire », alors vous vous moquez de Jésus. Vous devez croire au baptême et au sang de Jésus, l'évangile de l'expiation. Croire en Jésus sans connaître l'évangile de l'élimination des péchés est pire que de ne pas croire du tout en Jésus. Prêcher l'évangile qui ne croit qu'au sang de Jésus, c'est travailler en vain sans connaître la vérité. Jésus ne veut pas que quiconque croit en lui de manière arbitraire ou sans raison. Il veut que nous croyions en lui en connaissant l'évangile de l'expiation. Quand nous croyons en Jésus, nous savons que l'évangile de l'expiation est le baptême et le sang de Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, nous devons comprendre l'évangile de l'expiation à travers ses paroles et savoir précisément comment il a lavé tous nos péchés. Nous devons également savoir ce que représentent les fils bleus, violets et écarlates sur la porte du Saint-Tabernacle. Nous pouvons alors avoir la vraie foi qui durera éternellement. Nous ne pouvons jamais renaître sans croire en Jésus, qui est l'essence du fil bleu, violet et écarlate. Que faisaient les prêtres avant d'entrer dans le lieu saint? Ils se lavaient les mains et les pieds dans l'eau de la cuve de bronze. Notre Seigneur Jésus nous a sauvés. Nous ne pouvons que louer le Seigneur quand nous voyons à quel point il nous a sauvés parfaitement. Nous devrions regarder le Saint Tabernacle. Il nous a donné les paroles de l'évangile de l'expiation à travers le fil bleu, violet et écarlate du Saint Tabernacle et nous a sauvés avec eux. Nous remercions et louons le Seigneur. Les pécheurs ne pouvaient pas entrer dans le lieu saint. Comment quelqu'un qui a du péché pourrait-il entrer dans le lieu saint? Ce serait impossible. Si une telle personne entrait, elle serait tuée sur le champ. Ce ne serait pas une bénédiction, mais une damnation. Un pécheur ne pourrait ni entrer dans le lieu saint ni espérer vivre. Notre Seigneur nous a sauvés grâce au secret caché dans la porte du Saint Tabernacle. Avec du fil bleu, violet et écarlate et du fil de lin fin, il nous a sauvés. Et c'est par ces choses qu'il nous a révélé le secret de son salut. Est-ce que vous et moi avons été sauvés de cette manière? Si nous ne croyons pas aux paroles du fil bleu, violet et écarlate, il ne peut y avoir de salut par l'évangile de l'expiation. La couleur bleue ne signifie pas Dieu, elle signifie le baptême de Jésus. Elle signifie le baptême de Jésus qui a enlevé tous nos péchés. On peut entrer jusqu'à l'autel des holocaustes sans croire au fil bleu. Cependant, on ne peut pas entrer dans le lieu saint où Dieu réside. Par conséquent, avant de franchir la porte du Saint Tabernacle, nous devons croire au fil bleu, le baptême de Jésus, au fil écarlate, son sang à la croix, et au fil violet, Jésus étant Dieu et le Fils de Dieu. Ce n'est que lorsque nous croyons que nous sommes acceptés par Dieu et autorisés à entrer à travers le voile du Saint des Saints. Certains entrent dans la cour extérieure du tabernacle et pensent qu'ils sont à l'intérieur. Mais ce n'est pas le salut. Jusqu'où devons-nous aller pour être sauvés? Nous devons pouvoir entrer dans le lieu très saint. Pour entrer dans le lieu très saint, nous devons passer par le bassin de bronze. Le bassin de bronze représente le baptême de Jésus et nous devons laver tous nos péchés quotidiens par le baptême de Jésus et devenir sanctifiés pour entrer dans le lieu saint. Dans l'Ancien Testament, les prêtres devaient se laver le corps avant d'entrer, et dans le Nouveau Testament, Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour symboliser le lavage de leurs fautes de toute une vie. La loi de Dieu dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains, chapitre 6, verset 23. Dieu juge les péchés de l'homme sans exception, mais il les a transmis à son Fils et l'a jugé à sa place. C'est l'amour de Dieu, son salut. Le véritable salut n'est atteint que lorsque nous croyons en l'évangile de l'expiation, au baptême, au sang, à la mort et à la résurrection de Jésus. Pour naître de nouveau, il ne faut jamais mépriser la parole écrite de Dieu, l'évangile qui élimine les péchés. Quelle est la seule chose qui nous reste à faire? C'est de croire aux paroles écrites de Dieu. Je ne méprise jamais les autres. Quand quelqu'un parle de quelque chose que je ne connais pas, je lui demande de m'enseigner. Mais lorsque je me suis renseigné sur la signification du Saint Tabernacle, personne n'a pu me le dire. Alors que pouvais-je faire? J'ai dû retourner à la Bible. Dans la Bible, où est-il question du tabernacle sacré? Il est décrit en détail dans l'Exode. Et si l'on lit attentivement ce livre, on peut comprendre sa signification à travers les paroles écrites de Dieu. Chers amis, vous ne pouvez pas être sauvés en croyant aveuglément en Jésus. Vous ne pouvez pas naître de nouveau simplement en fréquentant régulièrement l'Église. Nous savons ce que Jésus a dit à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Jean, chapitre 3, versets 5 et 10. Tous ceux qui croient en Jésus doivent croire au fil bleu. Tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus lors de son baptême, au fil écarlate, la mort de Jésus pour tous nos péchés, et au fil violet, Jésus est le Sauveur, Dieu est le Fils de Dieu. Nous devons croire que Jésus est le Sauveur de tous les pécheurs du monde. Sans cette foi, on ne peut jamais naître de nouveau, ni entrer dans le lieu saint du royaume de Dieu. On ne peut même pas vivre fidèlement dans ce monde sans elle. Ne serait-ce pas si facile si l'on pouvait naître de nouveau simplement en ayant foi en Jésus? Oui, vous avez été sauvés. Je suis sauvé. Nous avons tous été sauvés. Comme c'est beau. Mais il y a tant de gens qui croient en Jésus sans être vraiment nés de nouveau. Il faut connaître la vérité de la Bible et avoir foi en Jésus. Nous devons connaître la signification du fil bleu, violet et cramoisi, qui est l'évangile de l'effacement du péché dans la Bible, afin d'entrer dans le Saint Tabernacle et d'être avec Dieu dans le monde de la foi. À l'intérieur du tabernacle de la foi, nous pouvons vivre heureux jusqu'au moment où viendra le moment d'aller au royaume des cieux. Il est essentiel que nous sachions croire en Jésus de la bonne manière. L'évangile originel engendre la sainteté avec le fil bleu. Quelle est la condition indispensable au salut? Le baptême de Jésus. Parfois, quelqu'un pense qu'il peut vivre parfaitement sans faire d'erreur. Pourtant, lorsqu'il essaie de faire quelque chose, il découvre rapidement ses lacunes. Les êtres humains sont si incomplets qu'il leur est impossible de ne pas pécher. Cependant, parce que Jésus nous a sauvés avec le fil bleu, pourpre et cramoisi, l'évangile de l'expiation, nous pouvons être sanctifiés et entrer dans le lieu saint de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas sauvés avec du fil bleu, pourpre et cramoisi, nous n'aurions jamais pu entrer dans le lieu saint par nous-mêmes. Quelle en est la raison? Si seuls ceux qui vivent parfaitement par leur chair pouvaient entrer, personne ne serait qualifié. Quand on croit en Jésus sans l'Évangile, on ajoute seulement plus de péchés à son cœur. Jésus nous a sauvés avec son salut soigneusement planifié, le salut du fil bleu, pourpre et cramoisi, et du fil de l'infin. Il a lavé tous nos péchés. Croyez-vous en cela? Oui. Avez-vous dans votre cœur la vérité de l'Évangile de l'effacement des péchés et en témoignez-vous? Oui. Ce n'est qu'en témoignant de l'Évangile que vous pouvez mettre sur votre front le bandeau qui dit « Sainteté à l'Éternel » et rejoindre le « Sacerdoce royal ». Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Ce n'est qu'alors que vous pouvez vous présenter devant les gens et leur dire que vous êtes un serviteur de Dieu, travaillant comme un grand prêtre. Le turban du grand prêtre a une plaque d'or et la plaque est attachée avec un cordon bleu. Pourquoi bleu? Parce que Jésus nous a sauvés avec l'évangile de l'effacement des péchés, parce qu'il a pris tous nos péchés et nous a rendus sans péché par son baptême, l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, le baptême dans le Nouveau Testament. Peu importe la diligence avec laquelle nous avons cru en Jésus, nous n'aurions pas pu mériter la plaque gravée « Sainteté à l'Éternel » sans les mots secrets du fil bleu, pourpre et cramoisi. Comment sommes-nous devenus justes? Il est écrit dans Matthieu, chapitre 3, verset 15. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus a été baptisé et nous a sauvés de tous les péchés du monde. Parce qu'il a été baptisé et a enlevé tous nos péchés, nous, les croyants, sommes devenus justes. Comment pourrions-nous dire que nous étions sans péché s'il n'y avait pas eu le baptême de Jésus? Même si nous croyons en Jésus, même si nous crions, pensant à la crucifixion de Jésus, toutes les larmes de ce monde ne pourraient pas laver tous nos péchés. Non. Peu importe combien nous pleurions et nous repentions, nos péchés resteraient en nous. Sainteté à l'Éternel. Parce qu'il a enlevé tous nos péchés par son baptême et son sang, parce que Dieu a permis que tous les péchés de nous, pécheurs, soient transférés sur Jésus, parce que la parole du salut est enregistrée dans la Bible, nous sommes devenus justes par notre foi malgré toutes nos faiblesses. Par conséquent, nous pouvons maintenant nous tenir devant Dieu. Nous pouvons maintenant vivre comme des justes et prêcher l'Évangile au monde. Oh, J'ai été sauvé. Vous avez été sauvé. Nous avons tous été sauvés. Nous avons été sauvés selon le plan de Dieu. Sans la parole de l'évangile de l'expiation dans votre cœur, il n'y a pas de salut, peu importe vos efforts. C'est comme une chanson populaire sur l'amour non partagé. Oh, mon cœur bat rapidement sans raison chaque fois que je la vois, chaque fois que je suis près d'elle. Je dois être amoureux. Mon cœur bat vite, mais pas le sien. Malheureusement, mon amour ne m'est jamais rendu. Les gens ont tendance à penser que le salut se présente sous différentes formes pour différentes personnes. Ils se demandent, pourquoi devrait-il seulement venir par l'évangile du baptême? S'il ne vient pas par l'évangile du baptême de Jésus, il ne s'agit pas d'un salut complet. C'est le seul moyen de devenir juste devant Dieu parce que c'est le seul moyen d'être complètement purifié de tous nos péchés. Qu'est-ce que le salut du fil bleu que Jésus nous a donné? Qu'est-ce qui nous a rendus justes? L'évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi. Le salut par l'évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi est le don de Dieu à toute l'humanité. Ce don nous a permis d'entrer dans le Saint Tabernacle et de vivre en paix. Cela nous a rendus justes. Cela nous a rendus justes et nous a permis de vivre au sein de l'Église pour être formés aux paroles saintes au sein de l'Église. Chaque fois que nous nous présentons devant Dieu pour prier, l'Évangile nous bénit de son amour. C'est pourquoi le salut est si précieux pour nous. Jésus nous dit de construire une maison sur le roc. Le roc est le baptême de Jésus. Nous serons tous sauvés, vivrons dans la grâce en tant qu'enfants de Dieu, puis irons au ciel pour vivre éternellement. Chers amis, grâce à l'Évangile de l'expiation, nous pouvons entrer dans le Saint Tabernacle avec foi. Grâce à l'effacement de tous nos péchés, le baptême de Jésus et au jugement de la croix, nous avons été sauvés par la foi. L'expiation abondante de tous nos péchés, le baptême et le sang de Jésus, est l'évangile qui a effacé tous nos péchés. Croyez-vous cela? Le véritable évangile est l'évangile céleste de l'expiation qui a complètement effacé tous nos péchés. Nous sommes nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'expiation. Jésus nous a donné l'évangile de l'expiation qui a effacé tous nos péchés quotidiens et même tous les péchés futurs. Louez le Seigneur. Alléluia. Merci au Seigneur. L'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile de l'eau et du sang, est le véritable évangile dit par Jésus-Christ. Ce livre a été écrit pour révéler l'évangile de Jésus, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que beaucoup de gens croient en Jésus sans connaître la vérité complète, ils n'opèrent maintenant que dans le monde de la théologie chrétienne, la soi-disant théologie philosophique. En bref, ils vivent dans l'hérésie et la confusion. Par conséquent, nous devrions revenir en arrière et croire au véritable évangile. Il n'est pas encore trop tard. Je veux entrer plus en détail dans le deuxième livre pour ceux qui ont des questions sur l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit.